sing a fresh heart of soft moves. Say we're going home tonight. But how can...
Encore une question sur le populisme. Pourquoi marche-t-il si bien maintenant ? Parce qu'au fond, promettre des solutions simples à des problèmes complexes, parler aux tripes des électeurs plutôt qu'à leurs raisons, on se dit que ça devrait fonctionner en tout temps. Quelles sont les raisons qui expliquent cette poussée populiste particulièrement forte en ce moment ? Cynthia Fleury, psychiatre et philosophe.
Pourquoi il est plus prégnant en ce moment ? Parce que précisément, il faut avoir en face de cette tendance un peu naturelle à aller vers un certain type de populisme, donc on va les dire de façon un peu grossière, des réflexes un peu pulsionnels et qui renvoient à la peur, la stigmatisation de l'autre, la désignation d'un ennemi ou en tout cas d'une menace extérieure et par la désignation d'un bouc émissaire. Bon, donc ça c'est effectivement c'est structurel. Pourquoi aujourd'hui c'est plus prégnant ? Parce qu'il y a moins de force en phase de compensation. C'est-à-dire que les inégalités sociales sont plus grandes, la précarisation est plus grande, le sentiment d'insécurité économique est plus grand, le sentiment d'insécurité culturelle est plus grand également. Et donc résultat, face à cette montée de l'angoisse primaire, de la pulsion à la fois de mort et de mise en danger de sa vie, de manière bien sûr fantasmagorique, mais bon, en face, vous avez des forces qui compensent peu. Donc ça, de fait, pour les sociétés qui sont les nôtres, c'est-à-dire occidentales, c'est problématique.
On pourrait aussi ajouter un changement de structure politique, comme remarqué par l'écrivain David Van Reybrouck.
Je pense que chaque démocratie est une espèce de pyramide, avec le sommet du pouvoir et la masse en bas. Et la masse est toujours... c'est du chaos, c'est chaotique, ça bouge dans tous les sens. Et il faut trouver une manière pour canaliser ce qui vit dans cette mêlée d'en bas, pour canaliser cette vécue vers des propositions en haut et vice-versa. Et avant, c'était les piliers qui avaient cette fonction dans une Belgique des années 50, 60, 70, 80, on va dire. À partir des années 80, 90, ce système s'est effondré. Et on voit que ces mouvements politiques, ces nouveaux mouvements politiques arrivent parfois à mieux canaliser ce qui vit en bas.
Il y a ça, et puis aussi un fameux changement de la sphère médiatique.
Allez, bonjour, cette fois-ci c'est la 67e revue de la semaine.
Voici le youtubeur politique français le plus populaire, Jean-Luc Mélenchon.
Je viens de lancer ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube pour faire les carnets de campagne de Marine Le Pen, en quelque sorte pour vous montrer les coulisses de cette campagne.
Merci à tous et puis à la semaine prochaine.
Retournons chez Caroline Powells. Elle est spécialiste en sciences de la communication, rectrice aussi de la VUB, et elle nous parlait, souvenez-vous, lors du premier épisode, d'un espace public aujourd'hui frappé par la fièvre.
La rapidité, l'impulsion avec laquelle tout est partagé, en fait, amène à un espace public qui est toujours en surcharge, qui est toujours un peu fiévreux.
Pour elle, l'essor des réseaux sociaux facilite grandement la tâche des partis populistes.
Les partis populistes ont un accès direct à leur public. Il y a, je crois, un lien direct entre l'utilisation que font plus efficacement et qui ont peut-être mieux compris que travailler sur le ventre des gens. L'angoisse et l'anxiété des gens marchent, fonctionnent. C'est pas nouveau non plus, on sait que ça fonctionne. Mais à nouveau, ils ont les outils à disposition pour entrer dans un contact direct. Ce que je trouvais dommage, c'est que les médias traditionnels ont beaucoup trop copié le comportement des réseaux et de cette alliance, effectivement, qui se fait entre réseaux sociaux et certains courants populistes.
Au plan du temps, nous sommes de plus en plus soumis, amenés à pratiquer une temporalité extrêmement rapide, dans laquelle la complexité du débat démocratique ne parvient pas à entrer.
Vincent de Corbitaire, philosophe.
Et les responsables politiques l'ont compris, et sous la pression des médias qui eux-mêmes raccourcissent de plus en plus le temps de parole que l'on donne, on vous demande d'être bref, d'être percutant, vous faites des phrases trop longues, des développements de 2 minutes, on va couper, donc si vous savez d'avance que vous allez être coupé, vous allez préparer un mini-digest. Et donc tout ça facilite l'expression d'une pensée simple. Et la pensée populiste, c'est une pensée simple. Le peuple veut ça, il faut faire ce que le peuple veut, puisque c'est la démocratie. Le populisme, c'est une maladie sénile de la démocratie, interne à la démocratie. Ça n'est pas le tout autre, comme peut l'être l'extrême droite, qui veut rompre complètement avec la démocratie. C'est l'expression, pas très adroite et pas toujours très digne, d'une logique démocratique fondamentale. Je suis une fraction de peuple, et ce que je veux est censé être pris en compte, puisque la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Quand on a un système de communication qui ne permet plus l'expression d'une pensée plus complexe, c'est la pensée la plus simple, voire simpliste, qui a le plus de facilité à s'engouffrer.
Et puis, il y a peut-être un autre élément qui expliquerait le succès du populisme et même le succès, allons plus loin, des partis d'extrême droite qui s'épanouissent aujourd'hui dans certaines démocraties européennes en prônant des modèles qui sont pourtant très peu démocratiques. Et la raison de ce succès serait que les effets d'un vaccin puissant sont aujourd'hui en train de s'estomper. Et ce vaccin, pour Raffaele Simone,
c'est la guerre. La période dans laquelle le modèle démocratique s'est développé surtout, c'est l'après-guerre. Et donc on partait de la guerre, de ces désastres, de ces destructions, de ces violences, pour reconstruire un modèle qui serait l'opposé de ce qu'on avait vécu auparavant. Il n'est pas un hasard que pratiquement toutes les constitutions européennes modernes sont basées sur le refus de la guerre, ce qui n'existait pas avant. Mais non, ce cycle se termine. On est dans une phase d'abondance, de consumérisme, de paix véritable ou illusoire, dominée par la médiasphère, ce qui crée une certaine libération des instincts, disons, les plus dangereux de l'être humain. Par exemple, l'agressivité sociale.
Donc, le fait de ne pas avoir connu la guerre ferait que nous serions plus enclins à voter pour des partis d'extrême droite, que nous serions moins clairvoyants sur la menace que constitue leur projet politique.
Pendant longtemps, les enquêtes sur le vote pour les partis dits d'extrême droite ou populistes montraient que c'est dans les tranches d'âge supérieures que l'électorat était le moins fourni. Il y avait en effet toute une série de personnes qui étaient définitivement vaccinées par la période de l'avant-guerre ou de la guerre. Et les personnes âgées aujourd'hui sont, pour une part, déjà nées après le conflit et donc n'ont pas les mêmes réflexes immunisants.
La crise des années 30 et les réactions populistes de cette époque ne doivent pas être oubliées. On a vu le mal que cela fit à nos démocraties.
Cela étant, là où je ne parviens jamais à être d'accord, c'est devant l'assimilation pure et simple que Raffaele Simone ne fait pas, mais que d'autres font entre les partis populistes actuels et l'extrême droite. C'est très complexe. On sait qu'il y a presque toujours au sein de ces partis un noyau de personnes qui ont un passé plus que trouble et qui, si on les laissait faire, seraient effectivement dans la direction extrême droite. Ce n'est généralement pas le cas de la totalité du personnel politique de ces partis, et c'est certainement encore moins le cas de leur électorat. Et je pense qu'on commet une très lourde erreur en termes de dynamique politique et électorale en envoyant en permanence à cet électorat l'image infamante d'être des fourriers de l'extrême droite, des nostalgiques du fascisme, des sortes de petits Hitler. On alimente un malentendu qui est déjà très présent et qui est un des motifs du vote populiste, cette impression qu'ont certains que s'ils ne crient pas haut et fort et s'ils ne cherchent pas des partis extrêmes, on n'écoutera pas du tout leur doléance. On caricature leur position et en plus on s'affole pour rien, en se disant il n'y a pas moyen de faire de la pédagogie puisque ce sont tous des racistes invétérés, voire des nazis. Je pense qu'il faudrait être beaucoup plus nuancé quant à ce qu'est le système de valeurs et ce que sont les raisons pour lesquelles un certain électorat vote pour les populistes. Il y a de très mauvaises raisons, incontestablement. Il y en a d'autres qui sont infiniment plus compréhensibles, qui méritent d'être prises en compte. Donc restons nuancés.
Est-ce que vous pensez vraiment pour la majorité des gens qui votent dans ce pays,
Benoît Friedman,
ils ont envie d'aller droit dans des uniformes et dans des guerres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont envie de poursuivre un modèle de vie dans lequel on jouit d'une certaine liberté, qu'on ait une certaine solidarité, qu'on essaye d'étendre grâce à notre prospérité et par notre travail cette solidarité et qu'on invente un futur qui nous permette de relever les défis. Est-ce que vous pensez que ces options-là sont nécessairement minoritaires par rapport aux aspirations des gens? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'elles sont majoritaires, simplement. Il va falloir trouver, dans le laboratoire qu'est la démocratie, d'autres formes, d'autres courants, d'autres doctrines, si vous voulez, et d'autres représentants pour les porter.
Mais alors, ce serait ça le remède ? L'émergence de nouveaux mouvements, de nouveaux représentants, articulés autour de nouveaux clivages ? Pour Benoît Friedman, c'est une évidence.
Dans le système démocratique, personne ne dit que les partis sont toujours les mêmes. Les partis d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les partis d'avant-guerre, qui n'avaient rien à voir avec les partis du XIXe siècle. Donc, moi, je ne pense pas du tout que la mise en cause des partis de gouvernement va s'achever, qu'enfin on va tous se retrouver autour soit du bon vieux PS, soit du bon vieux courant libéral ou social-chrétien. Comme il y a des transformations sociales, il va y avoir des nouvelles offres politiques. La démocratie n'est pas juste un exercice de représentation de ce que les gens veulent, c'est un exercice de construction collective de la direction que nous allons prendre, fondée sur un certain nombre de valeurs qui, elles aussi, sont construites et évolutives et changent. Donc c'est ça l'intérêt du régime démocratique, c'est qu'il produit de nouvelles valeurs, il produit de nouvelles significations et il permet de porter au pouvoir des gens qui vont pouvoir les mettre en place. Que ce soit bon, avec des bonnes conséquences, ou que ce soit mauvais, et de toute façon, et ça c'est encore plus merveilleux dans la démocratie, c'est que si on s'aperçoit que c'est mauvais, ou même si on sait bon mais qu'on n'en veut plus, eh bien tous les 4 ans, ou tous les 5 ans, on en change.
Pour Vincent de Corbitaire, cela passera aussi par un retour de la pédagogie politique, l'explication de la complexité.
Je pense qu'il doit être possible de faire revenir un certain nombre de citoyens à des vues plus nuancées, mais pour autant qu'on court le risque de prendre des décisions courageuses et dignes et d'expliquer pourquoi on les prend. Mais si on a décidé une fois pour toutes que les électeurs sont incapables de comprendre un discours à tant soit peu complexe, là la démocratie perd définitivement la bataille. Mais ça vaut sur cette question-là comme sur n'importe quelle autre question. Une démocratie qui se laisse enfermer par une logique de dialogue fondée sur les 140 ou les 280 caractères d'un tweet, ou des interventions télévisuelles en 3 éléments de langage en 180 secondes, ça c'est une démocratie morte. Elle a besoin de la complexité, du temps de la complexité, du temps de la pédagogie et du pari sur la nuance. Si on ne fait pas un pari sur l'intelligence des électeurs en démocratie, il faut tirer le rideau. Puisque c'est à eux qu'on donne de toute façon la clé ultime qui est de choisir leurs dirigeants.
Caroline Powells voit d'ailleurs dans les réactions à l'élection de Donald Trump aux États-Unis des signes encourageants en la matière.
Dans les élections de Trump, ce qui a été un bienfait, c'est qu'après, les abonnements pour The New York Times sont quand même augmentés, qu'il y a d'autres plateformes qui se sont créées. Il faudra aussi réinventer le modèle économique. Si on prend de correspondance, ce modèle d'avoir des donateurs et aussi impliquer le public dans ce qui est important. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, les faire travailler ensemble. Je crois beaucoup à ce journaliste. Je ne dis pas qu'il sera le modèle dominant, au contraire. Mais il y aura aussi ce modèle-là. Et ça me rassure, qu'on réinvente aussi les médias.
Quant à David Van Reybrouck, lui pense qu'il faut tout simplement passer à d'autres formes d'organisation de la démocratie, où la voix que l'on exprime aujourd'hui par une croix au crayon rouge dans un isoloir deviendrait une vraie voix délibératrice, et il donne encore cet exemple.
Cette jeune dame avec 2 enfants qui tient un salon de coiffure ou un, que sais-je, dans une petite ville ardennaise, est-ce que c'est une proto-fasciste? Je ne le crois pas. Les voteurs populistes ne sont pas encore des fascistes. Ils vont le devenir si on continue à les diaboliser. si on continue à le démoniser. Mais il n'est pas encore trop tard. Moi, j'aimerais bien parler avec elle. Et c'est ça le problème. Notre démocratie ne parle plus. Notre démocratie est devenue un système très, très, très silencieux. Les gens votent en silence. La loi nous oblige de voter en silence. Dans l'isoloir, on ne peut pas parler. Et puis, on rentre à la maison et on hurle sur Facebook en silence.
Mais ça, nous y reviendrons dans le dernier épisode de cette série « Comment réenchanter la démocratie ».